Amicus Radio, en partenariat avec Labyrintho, présente une série d'épisodes pour parler de ces moments névralgiques où art et droit s'entrecroisent, en dévoilant ainsi des rapports cachés qui les lient. Ce que le droit nous apprend de l'art, ce que l'art nous apprend du droit, et ses rapports de pouvoir voilés et implicites. Épisode 27. Climat, art et droit. Conclusion. 4 artistes et 4 outils juridiques pour l'environnement. À vous d'un échec. 10 mois de travail n'a pas été un temps suffisant pour nous faire un panorama clair sur l'imbrication de 3 sujets, à savoir art, droit et écologie. Chaque pan thématique présente une complexité qui rend difficile de les déceler séparément pour ainsi avoir une lumière de certitude sur les caractéristiques de leur imbrication. En ce qui concerne l'environnement, depuis le départ, nous n'avions pas la prétention de révéler des concepts définitifs, encore moins des solutions évidentes aux problématiques exprimées par les experts et individus impliqués. Nous avons donné donc comme acquises les prémices utilisées par les acteurs, experts et par nos interlocuteurs, même si elles pouvaient être contradictoires entre elles. En ce qui concerne le dénommé « art écologique », le terme pour désigner ce type de création est lui-même remis en question constamment, ne parlons même pas de son contenu. Nous nous sommes basés sur le texte « Art écologique, création plasticienne et anthropocène » de Paul Ardenne, mais finalement il nous a paru largement arbitraire et insuffisant. Les travaux d'artistes que nous avons choisis sortaient du cadre posé par Ardenne, à peine en 2019, et même la notion d'anthropocène, utilisée dans le sous-titre de son texte, a été fortement contesté par notre invité Nicolas-Xavier Ferrand.
C'est comme le mot anthropocène. Je pense que c'est le pire mot, du monde, parce qu'il est extrêmement trompeur. Bon, il y a plein de gens qui le disent, mais on n'a pas commencé à altérer négativement notre environnement depuis que Homo sapiens est sur Terre. C'est pas depuis 300 000 ans, c'est depuis, on va dire quand même 200 ans, depuis l'arrivée des économies extractives, productivistes, et on peut mettre le capitalisme d'un côté et le communisme de l'autre côté, parce que la Corée du Nord et l'URSS n'étaient pas spécialement non plus des chasseurs-cueilleurs. C'est toute la façon dont on a envisagé l'abondance et dont on a envisagé le progrès.
Finalement, en ce qui concerne le droit de l'environnement, nous avons fait des bonds entre frustration, pour nous considérer incompétents et incapables de traiter le sujet, et résignation, en inculpant la complexité d'une thématique qui bouscule le droit positif et semble rendre insaisissable le sujet dans sa totalité. Plusieurs textes comme « Le droit international de l'environnement » de Mario Bettati, paru en 2012, ou bien « Justice climatique » de Sabine Lavouelle et Martha Torres-Schaub, paru en 2023, nous ont permis de goûter à une sensation de compréhension, sensation éphémère et vite effacée par d'autres sources, comme des traités internationaux qui échappaient aux textes dont nous nous sommes servis. Ou bien le rapport « Droit des générations futures » de l'IURDJ, qui a impliqué pour nous l'immersion dans une notion qui grandit sans cesse dans l'écosystème juridique. Sans chercher à faire de la publicité, nous conseillons néanmoins les 5 épisodes de l'Amphi d'Amicus intitulés « Sur le droit de l'environnement » avec Maître Christian Huglot. Son podcast nous a permis d'esquisser un panorama large de la thématique. Malgré ce constat peu rassurant et qui, nous espérons, puisse servir aussi d'indice de quelque chose de plus général pour nos auditeurs, nous sommes heureux d'avoir pu explorer quelques terrains de ces thématiques de façon ponctuelle et espérons avoir pu partager ces découvertes avec celles et ceux qui nous écoutent. Du côté de l'art, en plus de la contemplation esthétique des œuvres des 4 artistes explorés, le travail de Fabrice Hibert nous a permis de sortir de la problématique de l'ontologie de l'art, très présente dans nos épisodes traitant d'art contemporain et même de quelques artistes modernes comme Brancusi. En nous libérant de cette prison conceptuelle, nous avons découvert des formes de création qui passent par l'appropriation du territoire et qui dialoguent avec les codes de l'art en se servant d'eux de façon utilitaire. Le travail de l'artiste vietnamien Dan Vo nous a préparé à accepter la complexité et surtout à acquérir une fluidité dans l'incompréhension, nécessaire pour continuer à transiter dans ces terrains qui paraissent insondables. Du côté d'Hicham Verada, son travail nous a permis de pousser la réflexion à un point de paroxysme en ramenant la problématique au-delà de l'humain, tout simplement en le supprimant de l'équation. Finalement, grâce à Van Gogh, nous avons reçu un appel à l'humilité et nous avons été alertés sur des dangers de la surinterprétation et les risques que celle-ci peut amener. Van Gogh nous a également permis de nous confronter à la place de la légitimité dans ce paysage d'intérêts alambiqués. Du côté du droit, même si, comme nous l'avons dit, partiel et de loin insuffisant, nos apprentissages personnels sont multiples, et voici certains d'entre eux. Nous avons constaté une réponse active de la part des acteurs du monde juridique et une prolifération d'actions qui se concrétisent à une vitesse vertigineuse dans le droit positif. Citons comme exemple le fait que la notion de génération future, que nous avons explorée dans l'épisode sur Hicham Berada, s'est entre-temps ancrée de façon plus profonde dans le droit positif français lors d'une décision du Conseil constitutionnel prononcée quelques semaines après la parution de notre épisode sur la thématique. Un autre élément qui s'est imposé à nous est le caractère inéluctablement international du droit de l'environnement. Cette caractéristique est tombée sur nous autant comme une évidence que comme une foudre désarmante. En effet, dans l'art au parloir, à plusieurs reprises, nous avons réussi à confiner nos réflexions dans le cadre du droit interne français pour pouvoir ainsi travailler avec des notions juridiques suffisamment cernées. Cela a été impossible avec la thématique du droit de l'environnement. Pour pallier à cela, nous avons eu la chance d'être accompagnés par des experts. Leurs précieuses orientations nous ont permis de ne pas sombrer dans cette jungle législative et jurisprudentielle. Plusieurs autres sources nous ont guidés également. Pour le premier épisode, l'amphi de Maître Glot cité précédemment, mais aussi celui de Sabrina Robert-Cuindé sur « Droit international et lutte contre les changements climatiques ». Pour le deuxième épisode, le texte des écocrimes à l'écocide, le droit pénal au service de l'environnement, sous la direction de Laurent Néré. Le troisième épisode a été enveloppé, très opportunément et presque avec synchronicité, par le rapport « Droit des générations futures » réalisé par Sonia Jamie Wagner et Victoria Vano, publié par l'IERDJ. Pour le quatrième épisode, nous avons pu nous cantonner dans le droit positif grâce à la Convention d'Aarhus, guidée dans celle-ci par Michel Forst, lumière d'exception. Des parcelles donc de connaissances sur des thématiques larges. Que pouvons-nous donc dire de leur imbrication? Et quelles leçons en tirer? À la différence de la plupart de nos précédents épisodes, à part le conflit juridique autour de la soupe sur la vitre des tournesols de Van Gogh, nous n'avons pas traité de lutte juridique impliquant les œuvres ou artistes choisis. Des exemples de conflits, il y en a, comme celui concernant Christo et Jeanne-Claude, notamment autour de leur projet Over the River, officiellement abandonné comme signe de rejet au gouvernement Trump, plus vraisemblablement influencé par un procès judiciaire dans lequel ses opposants exprimaient des arguments écologiques. Nonobstant, à part Van Gogh, nous avons décidé de travailler avec des artistes et des œuvres actuelles ou proches de l'actualité afin d'insérer notre travail dans cet esprit d'urgence très présent dans la question environnementale. Nous l'avons vu avec Van Gogh, le fait d'attribuer des interprétations à ce que les artistes anciens auraient pu dire concernant une problématique nettement contemporaine est dangereux. À la position des activistes de Just Stop Oil, et Cana Longo dans la revue AOC nous invitait à rejoindre dans un devenir artiste résolument nouveau, nous préférons le travail de Fabrice Hibert, qui dans la continuité d'autres artistes comme Alan Sonfist avec son œuvre Time Landscape, s'approprie des espaces dans la mesure de leurs possibilités pour les faire exister en cohérence avec les diverses formes de sagesse qui les entourent et habitent. Jeanne Barral, conservatrice à la Fondation Cartier et en charge de l'exposition La Vallée.
L'exposition de Fabrice Hibert à la Fondation Cartier s'appelle La Vallée, qui est le nom de cette forêt qu'il a semée autour de la ferme de ses parents où il vit encore. Et c'est une exposition école. Donc le sous-titre de La Vallée, c'est l'école. Et c'est une école à plusieurs titres. Fabrice Hibert a choisi, par la scénographie sur laquelle il a beaucoup travaillé, de transformer les quatre espaces de la Fondation Cartier en 19 salles de classe. Donc on a 19 salles thématiques sur des sujets qui sont traités en fait dans les programmes scolaires. Donc par exemple le langage et la poésie, l'éducation physique et sportive, la bio, les maths. On a aussi l'histoire géo. Et donc toutes ces thématiques sont en fait des disciplines du monde scolaire. Et dans chacune de ces 19 salles thématiques, on a du mobilier scolaire qui a été vraiment acheté chez un fournisseur de mobilier scolaire et qui est utilisé à la fois par les visiteurs, parce que l'envie de Fabrice, c'est qu'on puisse s'arrêter et s'asseoir devant les œuvres pour les lire et les regarder. C'est très important pour Fabrice d'avoir le temps de s'asseoir et le temps de lire, parce qu'effectivement, sur ses œuvres, il y a beaucoup d'écrits, il y a beaucoup de démonstrations. Ça prend du temps pour comprendre les hypothèses qui sont dressées sur les tableaux. Donc les visiteurs peuvent s'asseoir, mais aussi les élèves. Parce qu'en fait, on a créé un programme pédagogique exprès pour l'exposition et on accueille 15 classes en résidence dans l'exposition, donc 8 classes de Vendée et 7 classes de région parisienne de différents niveaux. Donc on a des primaires et des lycées agricoles pro. Il y a les médiateurs qui donnent des cours une fois par heure sur des sujets dans les salles. Et il y a les conférences que moi j'organise tous les jeudis avec des spécialistes qui viennent parler d'un des domaines qui intéressent Fabrice Hibert. Donc c'est des conférences en fait en dialogue entre deux spécialistes qui ne connaissent pas forcément, et la plupart du temps qui ne connaissent pas le travail de Fabrice Hibert, mais qui sont spécialistes d'un des domaines traités dans la toile. Et en général, je choisis deux ou trois toiles. Et les deux spécialistes s'auto-interviewent. Il n'y a pas de médiateur, il n'y a pas de journaliste.
La prolifération de ce type de projet, dont l'un d'entre eux se déroulant en Colombie et qui nous est très proche, nous fait penser au contrat obligation réelle environnementale que nous avons découvert lors du colloque bien commun de l'IURDJ à Marseille en septembre 2023. L'explicitation du dispositif ainsi que sa publicité nous paraît un pas de plus pour construire des outils afin de favoriser le type de démarche et des initiatives similaires à celles d'Hibert. Ce pas semble néanmoins timide, surtout en rapport avec le niveau d'urgence reconnu par l'État lui-même. De plus, il est focalisé sur la compensation environnementale, mais il paraît y avoir consensus sur le fait qu'il ne suffit pas de compenser, il faut inverser. En plus de la mise en évidence du principe de complexité, le travail de Dan Vaux nous a permis de rappeler la capacité de la création artistique à donner présence à des idées, interprétations, faits. Dans son cas, nous avons pu intégrer l'œuvre en l'interprétant en ce qui concerne l'agent orange et l'écocide au Vietnam. La confrontation de la suppression hypothétique de l'humain opérée par Hicham Berada a fait office d'argument ad absurdum et a laissé entrevoir qu'une lutte pour la nature est au fond une lutte égoïste pour nous-mêmes en tant qu'humanité. Nous pensons que les entités non humaines n'ont pas besoin de nous pour leur attribuer ou reconnaître des droits, mais nous, humains, avons besoin de leur reconnaître des droits si nous aspirons à garder des relations dans lesquelles notre existence puisse aussi perdurer. Pour finir, Van Gogh nous a échappé. Oui, son travail donne une place très importante à la nature, ou disons au non-humain. Il est donc possible de faire un lien entre cette place attribuée par Van Gogh et une pensée qui prône l'union avec la nature, comme cela a été fait dans l'exposition « Nature humaine, humaine nature » à la Fondation Vincent Van Gogh d'Arles en 2023. Nonobstant, nous n'avons pas réussi à dégager de façon honnête un quelconque positionnement politique sur cette thématique à partir de son esthétique. À vrai dire, lors de la création sonore que nous avons réalisée pour son épisode, nous avons eu la sensation de ne pas vraiment saisir son esthétique tout court. En revanche, nous avons vu que la légitimité gagnée par une œuvre et un artiste génère un attachement autonome à des valeurs qu'elle porte, mais qui sont attribuées de manière assez diverse. Nous avons vu aussi qu'une adaptation discursive d'une attaque symbolique à l'œuvre ne réussit pas à amoindrir le rejet à l'attaque avec le seul discours qui prétend faire adhérer l'artiste aux valeurs défendues par l'attaque. Disons nonobstant que l'efficacité tactique d'un tel acte, que Nathalie Heinisch semble nous dire défaillante, ne paraît pas l'être autant en fin de compte, puisque profiter de la célébrité de l'œuvre pour faire parler de la thématique semble être un objectif en soi pour les militants, peu importe si c'est parler en bien ou en mal. Le niveau d'efficacité de ce seul objectif, vis-à-vis d'un plus ample qui est celui de, par exemple, la sortie des énergies fossiles, est une autre question qui dépasse de trop le cadre dans lequel nous prétendions porter notre analyse. Comme conclusion générale, nous finissons avec la sensation que pour défendre la planète, sauver la nature, préserver l'environnement, rien ne marche, rien n'est efficace. Rien tout seul. Ni les lois, ni les juges, ni les militants, ni les artistes, ni les scientifiques et théoriciens, ni les industriels, la finance, les classes politiques, aucune institution, rien, isolé, semble apporter ou pouvoir apporter de façon considérable à atteindre ces objectifs. Mais nous avons la sensation que toutes ces actions et acteurs réunis peuvent, et on l'espère aussi, trouver de meilleures réponses à ces problématiques multiples. Et pourquoi pas, ces podcasts aussi.
I'm sorry.